Tous les jours, nous rediffuserons un épisode d'une des émissions de Nouvelles Écoutes au sein de notre podcast club. On vous invite ensuite à en parler avec nous sur nos réseaux sociaux. Prenez soin de vous, restez chez vous, ne prenez aucun risque inutile. À très bientôt.
Il faudrait qu'on ait cette radicalité, nous les femmes. Tu me traites comme une servante ? Au revoir. Et puis tant pis, ça va être dur, mais au revoir. Parce que de toute façon, ça se finit toujours mal.
Pour Vieille Branche, aujourd'hui, j'ai rejoint Colline Serrault à la terrasse d'un café parisien, à l'aube d'une journée surchargée, car Colline Serrault a 72 ans, certes, mais c'est toujours un bulldozer. La terrasse est bruyante, on a vu défiler tout ce que Paris compte d'activités matinales, des enfants en route pour la piscine, des camions poubelles en route pour la propreté, une amie de Colline Serrault qui passait par là, bref, c'est très animé. Et puis malgré son emploi du temps, vous allez l'entendre, Colline Serrault reste très disponible. Elle a écrit une sorte d'essai sur sa vie qui est sorti en octobre, qu'elle rechigne complètement à appeler autobiographie, elle n'a pas envie. Il s'appelle hashtag Colline Serrault. Outre une formidable histoire d'amour entre sa grand-mère et son grand-père, j'y ai appris beaucoup sur l'environnement extraordinaire dans lequel elle a fait ses tout premiers pas. Une école dans la nature en pleine Drôme, en avance sur absolument tout à la fin des années 40. Mais ça, on va y venir.
Votre famille, c'est extraordinaire. Enfin, je ne connaissais pas, moi, l'école de Beauvallon.
Ah oui ?
Je ne connaissais pas, non.
J'avais pas cette culture-là. Ah bah c'est bien, tu vois. Ben oui, mais sur le net, on peut trouver des trucs.
Vous bah oui, bien sûr. Bah oui, c'est très documenté, en fait.
Oui, mais c'est récent, hein. C'est récent, parce que comme c'était des femmes, ils n'en ont pas parlé avant 70 ans.
Vieille branche chez moi.
Vieille branche.
Une vieille branche.
Vraiment, bon, une vieille branche.
Dans ma tête, j'ai toujours 18 ans.
Bonjour, vous écoutez Vieille branche. Pendant près d'une heure, je vous emmène chez un homme ou une femme dont les souvenirs racontent notre histoire.
J'ai pris une fois de la cocaïne, ça ne me fait rien.
De tout de la vie. Je suis encore désirable.
Évidemment que c'est important.
Nous allons discuter sans tabou, mais avec bienveillance, de leur vie, de l'amour, de la mort, d'Emmanuel Macron, d'Edith Cresson, de la planète à bout de souffle, des relations hommes-femmes, des relations hommes-hommes, femmes-femmes, de Tinder, du Minitel, de Snapchat. Tous les sujets sont permis.
Ah, vieille branche!
Quelle est leur morning routine? Que pensent-ils de notre époque? Quelles sont les histoires qu'ils n'ont encore jamais racontées? Je suis Marie Misset et aujourd'hui je suis à la terrasse d'un café de Paris avec Colline Serrault. Bonjour Colline Serrault.
Bonjour.
Merci de nous accueillir à cette terrasse du Dunkerque. On est avenue Trudaine à Paris. Colline Serrault, vous êtes trapéziste?
Oui.
Vous êtes aussi beaucoup, beaucoup d'autres choses. Vous êtes artiste, actrice, cinéaste, metteur en scène, dramaturge, scénariste et même chef de chœur. Depuis 1975 et Mais qu'est-ce qu'elles veulent, vous avez écrit et réalisé des films qui vous ressemblent. On pense évidemment à Trois hommes et un couffin quand on pense à vous. On pense à Romuald et Juliette, à La crise et à cet échec commercial qui est devenu culte après, La belle verte. Vous avez aussi écrit des pièces de théâtre qui ont été jouées et rejouées, comme Qui sait tout et Gros Bêta. Sachez que j'ai personnellement incarné Gros Bêta dans une mise en scène assez sophistiquée en CM. Votre vie a été aussi façonnée par celles qui vous ont précédé, par l'écrin assez fou dans lequel vous avez passé vos toutes premières années. L'école Beauvallon, on va en parler dans quelques instants évidemment. Mais avant d'y venir, je vous pose ma première question qui est une question rituelle. Quand est-ce que vous situez, Colline, le début de votre vie? Vos premiers souvenirs? Un grand
silence. Le jour de ma naissance, quoi, non?
Le jour de votre naissance, on peut en
c'est
parler.
C'est le début
d'ailleurs.
De ma vie.
On peut en parler du jour de votre naissance. Il y a ce témoignage assez fou sur votre maman dans hashtag Colline Serrault.
C'est drôle, ça.
Ouais, votre maman qui ne se laisse pas faire par l'infirmière qui rentre dans la chambre et qui lui parle un petit peu comme à une enfant.
Oui, c'est une époque où c'est aussi pour situer cette époque où on parlait aux femmes comme si elles étaient un peu des mineurs, un peu des bêtasses, vous voyez. Ma mère, elle était agrégée de lettres, c'était pas une bêtasse. Et quand l'infirmière l'a dit, oh, tété, comment ça va? Alors elle a bien manqué, maintenant pas mal. Puis qu'elle lui donnait des ordres, ma mère lui dit, ne me parlez pas. Et puis elle lui disait, elle.
Oui, elle ne lui parlait pas.
Parlez-moi à moi, je veux dire, je suis là, à qui vous parlez là? Elle est où? Et l'autre, elle a continué. Donc ma mère lui a arraché tous ses boutons de sa blouse.
Elle lui a tout simplement
parce qu'elle en avait marre, et puis qu'elle était quand même, elle venait d'accoucher, ce qui n'est pas rien.
Et puis c'était juste après la guerre, elle était quand même avec un corps fatigué,
oui,
abîmé.
Elle avait beaucoup souffert pendant la guerre, hein, oui.
Et
elle a eu faim pendant des années. comme toute la France.
Ça m'a fait penser à un compte Twitter qui existe aujourd'hui qui s'appelle Motherfucking Stories, qui raconte des choses qu'on dit à des femmes qui viennent d'accoucher ou qui sont jeunes mamans et qui ne sont pas tellement différentes qu'en 1947.
C'est toujours pareil. Hein. Est-ce que vous avez bien rempli le frigidaire pour votre mari ? Non, mais oui. C'est dingue, ça, il ne peut pas remplir lui-même, lui. Vous, vous êtes en train d'accoucher, enfin, c'est déjà un truc énorme. Et non, lui, il faut que vous lui remplissiez son frigidaire. Non, mais c'est quand même... Est-ce que ça se passe encore comme ça, franchement, non ?
Bah, en tout cas, non. Il y a un petit livre, par exemple, qui existe pour emmener les femmes à la maternité, les accompagner, où il y a écrit « Pensez à prendre quelques bonbons et quelques trucs pour votre mari pour pas qu'il s'ennuie pendant que vous accouchez. » Donc, oui.
Et oui, le maquillage aussi.
Oui, pour être présentable pour la famille. Il y a un obstétricien qui vous racontait, il y a des années maintenant, et vous avez un petit peu eu envie de l'étriper, qui pensait qu'avant la péridurale, il pensait que les femmes faisaient semblant, qu'elles allaient pas mal.
Il en avait fait des centaines et des centaines, plus que des centaines. Hein. Et comme elles criaient, elles avaient très mal, il pensait qu'elles simulaient. Puis le jour où il a fait une péridurale, il s'est dit « Ah, 40 ans que je fais des accouchements !» Eh bien, elles avaient vraiment mal, les pauvres chéries. Non, mais ça, moi, je l'aurais... Oui.
Je pense à votre intérêt aussi pour ce journal de cette sage-femme en Ardèche qui n'a jamais été publié, que vous avez lu et dont vous reproduisez quelques extraits dans hashtag Colline Cero.
Déjà dans La Belle Verte, j'en parlais de ça.
Oui, il y a cette scène où Max, qui est joué par Vincent Lindon dit à une sage-femme qui lui n'a jamais accouché personne.
Non, et qu'il a fait que de piquer, péridural, machin, césarienne, etc. Il a déclenché... Il n'y a plus de respect du rythme naturel et du rythme qui est le bon. Et chaque corps éclot à sa manière et au temps qui est le sien. Au lieu qu'on fasse maintenant des déclenchements pour arranger les accoucheurs pour qu'ils puissent partir en week-end. Enfin, c'est grave, quoi. Ça, et puis le fait qu'en effet, l'accouchement est devenu un acte de violence chimique sur le corps des femmes... par les mecs. Bon, évidemment, on est content quand on n'a plus la souffrance, mais il y a des tas de moments où on peut supporter cette souffrance. C'est pas non plus... au deuxième ou troisième enfant, c'est pas non plus... Et c'est mieux que d'injecter des produits dans sa moelle épinière, quand même, non ?
Sachant que la souffrance, on va y être confronté à un moment ou à un autre dans notre
vie. À un
vie.
Moment ou à un autre, et une autre, et carrément autre chose que ça, c'est une souffrance qui amène à quelque chose d'heureux. Mais on est tous confrontés à des pertes, à des maladies, à des deuils, à des déchirements amoureux, à plein de choses qui sont très dures. Et il y a plein de joies aussi, mais c'est ce que j'appelle les rites de passage. On a supprimé les rites de passage pour les femmes et pour les hommes, et surtout pour les hommes. Donc là, ils sont comme des espèces de chiens fous qui se croient tout puissants, et il n'y a plus de moments où ils sont confrontés. Dans un moment où c'est encore possible... qu'ils soient ensuite protégés, ils sont confrontés à la dureté de la vie. Dans toutes les civilisations, il y a toujours eu des rites de passage. Mais ben nous, non, il n'y en a plus. Donc on a une espèce de truc non encadré et non... Et qui ensuite va vraiment souffrir.
C'est-à-dire qu'après, quand on prend des chocs, là, comme on n'est pas préparé,
Et là, il n'y a plus de protection, vraiment. Parce que c'est plus tard et les parents ne sont plus là.
Vous avez grandi dans un environnement particulièrement féminin, voire, disons-le, carrément féministe. Je ne connaissais pas l'histoire de l'école de Beauvallon que vous racontez dans votre livre, qui a été créée par la compagne de votre tante Simone dans la Drôme, avec une femme qu'elle a quittée d'ailleurs pour Simone, Catherine Kraft, qui était votre marraine. Donc il y a tout un gynécée de femmes assez extraordinaires qui ont accompagné votre enfance.
Qui ont pu rester vivre ensemble et par amour pour l'œuvre qu'elles étaient en train de créer. Et ça, c'était plus fort que tout. C'était plus fort que leurs histoires personnelles. Et c'était vraiment une vocation, une œuvre qu'elles ne pouvaient faire que toutes les trois ensemble. Catherine était une organisatrice extraordinaire de l'intendance. Elle gérait tout ce qui était matériel. Simone était vraiment l'artiste et elle est psychologue et psychiatre, aussi, pas psychiatre mais psychologue. Et mamie était le rayon de soleil, quoi. Mamie, c'était la fondatrice. Mamie, personne ne résistait à son charme. Aucun type de la sécurité sociale.
Marguerite Soubéran.
Qu'on appelait mamie, hein. On l'appelait tous mamie. Des générations d'enfants l'ont appelée mamie. Et elle était vraiment. Elle avait une puissance de conviction qui venait de sa propre puissance de conviction de ce qu'elle avait à faire sur cette terre.
Mais c'est un projet extraordinaire qu'elles ont mené. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Ben oui, c'était une école. Elles venaient toutes les trois de l'Institut Jean-Jacques Rousseau à Genève, qui était un institut qui était fondé dans les années 20 et qui formait des gens, des éducateurs, à toutes les grandes méthodes nouvelles qui étaient nées au début du siècle, quoi, d'éducation. Et alors, quand je pense que c'est même pas encore maintenant qu'on applique ces méthodes-là, je me dis c'est long pour que les choses évoluent. Hein. C'était Montessori, Steiner, Claparède, enfin tous les grands pédagogues de cette époque. Donc ils enseignaient ça. Et Marguerite, les trois ont suivi ces cours à des moments différents de leur vie et étaient sur cette philosophie-là, qui était une philosophie aussi naturiste, écologique, sans avoir, il n'y avait encore pas ce nom-là, mais sur la nourriture, sur la santé, sur le plein air, sur la liberté contrôlée aussi, mais et sur la manière de développer les enfants. Moi, je l'ai connue après-guerre, cette école, puisque je suis née après-guerre, mais c'est vrai qu'après-guerre, c'était extraordinaire, parce qu'il y a eu aussi toute la période
de la guerre où ils ont caché les juifs,
où ça a été un nid de résistance aussi d'intellectuels. Tous les grands intellectuels, beaucoup d'intellectuels français sont venus se réfugier là. Elles sont au Panthéon, juste parmi les nations. Mais moi, parce qu'après-guerre, il y avait une espèce de. La France était dans un état qu'on n'a même pas. On n'arrive même pas du tout, votre génération, à imaginer. Les gens avaient eu faim, c'était la misère, il fallait reconstruire, beaucoup d'hommes manquaient à l'appel. Et en plus, il y avait des cas sociaux partout, tout le temps, les gens étaient dans la misère, quoi. Donc, l'école de Beauvallon recueillait ces gens-là, surtout même de Paris, de partout, quoi.
Elle se donnait la mission de réparer les enfants abîmés.
C'est-à-dire, ils avaient des caractériels intelligents. C'est-à-dire des gosses qui étaient tellement détruits qu'ils n'arrivaient plus à s'intégrer nulle part, mais intelligents. Ils ne géraient pas la débilité. Mais ce n'est pas que la débilité soit méprisable, mais c'est simplement une autre genre d'éducation. Là, c'était des gosses intelligents qui n'arrivaient pas du tout à s'intégrer. Donc, il y avait toutes sortes de méthodes pour les intégrer, puis ça, pour les intégrer, ou en tout cas, pour les réparer au moins, et les construire. Et alors ça, je peux vous parler des méthodes, mais c'est très long. Hein.
En tout cas, tout le monde était pieds nus, et il n'y avait pas de
d'abord, on était pieds nus de juin à octobre, même plus. Quand on sortait, on était pieds nus, voilà. Et c'était excellent pour la santé, ça, d'avoir...
Par rapport à la terre, le pied directement planté.
Puis on avait des cales. Et puis le fait qu'on n'était pas surprotégé non plus. Et c'est un climat doux, hein, la Drôme. Et on était costaud, mais très costaud, parce qu'on montait dans les arbres, on faisait des traversées d'arbres. On était très libre. Et c'était aussi une époque où les gosses n'étaient pas surprotégés comme maintenant. Il n'y a jamais eu d'accident. Et quand on était malade, et ben c'était diète et au lit pendant 2-3 jours. Avec juste du bouillon de légumes. Donc c'était des méthodes révolutionnaires, hein, parce que tout le monde guérissait très bien. Je veux dire, c'était tout ça, c'est des méthodes qui sont pratiquées dans les cliniques de jeûne, etc. Enfin, tout ce qui est la santé, c'est tellement dément ce qui se passe que bon, je pourrais en parler pendant des heures. Voilà. Mais il y avait aussi une chose très importante dans cette école, c'était la participation des gosses à la vie, à la fois
et leur l'organisation,
leur responsabilisation, mais aussi à la vie. Il y avait des brigades de vaisselle une fois par mois, il y avait des brigades... Enfin, je veux dire, vous passiez forcément un moment de l'année, ou deux, ou trois, ou quatre, à faire la vaisselle pendant une semaine, ou en tout cas à l'essuyer, et à faire le ménage. C'est très important, ça. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'habitude du service, et surtout les hommes. Les gosses qui sortaient de Beauvallon, ils savaient...
Faire la cuisine, faire la vaisselle.
Et à faire des trucs manuels, et ils étaient... pas considérés comme des gosses qu'il faut servir. Parce que quand même, cette société est fondée sur le service des femmes.
On a du mal à croire en vous lisant que ces femmes aient réussi à vivre d'abord leur amour librement. Est-ce que c'est parce que c'était dans la Drôme qui était quand même un espace, une région assez...
Même encore maintenant, je ne comprends pas comment ça a pu... C'était grâce au rayonnement de Marguerite. Parce que c'était quand même... L'homosexualité était un truc complètement tabou. Complètement condamné, hein, encore déjà à cette époque. Maintenant, c'est
là,
moins comme ça.
De dire Marguerite, les parents de Simone l'ont adoré.
Tout le monde a adoré Marguerite. Tout le monde. Mais c'était un ouragan. On ne peut pas imaginer comment elle avait le charme qu'elle avait. Et en plus, il n'y avait pas d'ego chez elle. Elle avait ce charme, elle avait cette dimension de chef, mais elle n'a jamais eu d'ego. C'est-à-dire qu'on voyait bien que c'était pour quelque chose qui la dépassait. Et que rien ne l'arrêterait, par contre.
Oui, et puis elle raconte qu'elle emprunte de l'argent, et puis qu'elle verra bien.
Elle a assumé qu'elle ne le rembourserait pas. Mais non pas pour rouler les gens, mais parce que c'était comme ça. Et ensuite, elle a très vite été conventionnée par la Sécurité sociale. Il y avait des inspections. Et tout le monde savait qu'elles dormaient ensemble. Et tout le monde, il n'y avait pas la moindre allusion même à ça. Et nous, les gosses, on apportait des fois le petit déjeuner, etc. Je veux dire, il n'y avait pas d'allusion. Elle n'était pas non plus dans la démonstration. C'était leur vie, c'est tout. Et il n'y avait rien à redire à ça.
Et comment vous avez appris les histoires de grands chagrins d'amour que ça accompagnait aussi?
Ça, je l'ai su beaucoup plus tard. Ouais. Sur le moment, je n'ai jamais rien su. Personne n'a jamais rien su. Parce que Catherine était une femme totalement exemplaire. Une femme, une sainte. C'est-à-dire qu'elle elle a tout donné pour les gosses, quoi. Et donc, il n'y avait jamais la moindre amertume. Je pense qu'il y a eu des grosses tempêtes, mais ça ne regardait pas, ça ne regardait personne. Et d'ailleurs, ça ne regarde toujours personne, parce que ce qui reste, c'est l'œuvre qu'elles ont faite. Et l'œuvre de Catherine Kraft, là, c'est d'autant plus qu'elle était très discrète, elle. Tout le monde était discret. C'était des parpaillots. Hein. Parpaillots, ça parle pas de soi. Parpaillots, c'est les protestants.
Donc il y a votre mère aussi qui est extraordinaire, qui élève ses enfants seule, qui est aussi éditrice, qui n'a pas d'argent et qui arrive à mener surtout une indépendance folle. Vous racontez une histoire avec un de ses amants, de ses amoureux, Mohamed, qu'elle finit par quitter.
Éjecter, mais qu'elle aimait beaucoup, hein, mais nous aussi. Mais comme il était totalement dans sa culture patriarcale, elle a vu que ça ne serait pas possible, quoi. C'est-à-dire qu'elle était très libre déjà et fidèle à ses principes et elle n'était pas dans le service, elle n'était pas dans le, c'était vivre avec quelqu'un, c'était un partenariat égal, totalement égal. Et si ça ne l'était pas, et si le type la considérait, lui avait dit tu mens mais je te pardonne, alors là elle a dit tu dégages. Il a fait ses valises dans la journée. Ça, sur ces trucs là on rigole pas. Mais j'aimerais bien moi des fois que les femmes soient comme ça, que sur ces trucs là elles rigolent pas, avec ou sans des arabes, des islam, des musulmans ou pas, parce que je vous aime autant vous dire que dans la religion catholique c'est encore pire, et même dans la religion protestante, je ne parle même pas des juifs. Donc je veux dire que il faudrait qu'on ait cette radicalité, nous les femmes, hein. Tu me traites comme une servante, au revoir, et puis tant pis, ça va être dur, mais au revoir, parce que de toute façon ça se finit toujours mal.
Tu me traites comme une inférieure, en fait c'est ça qu'elle,
si on te traite comme une inférieure ou comme quelqu'un qui doit charmer ou qui doit rendre des services, c'est foutu. D'autant plus maintenant que les femmes se réveillent quand même. La deuxième vague de féminisme, elle est forte.
Parmi les choses que j'ai découvertes sur cette école Beauvallon dont nous parlons avec Coline Serrault, il y a donc ce trio de femmes qui font toutes seules les plans, la structure, le système éducatif. Pour vous donner une idée du charme et de comment Marguerite Soubeyran allait au bout de ses idées, il y a cette histoire qui raconte qu'une fois les fondations achevées, elle a demandé à son maçon de faire une piscine. Il a répondu que c'était peut-être plus urgent de construire le toit de la maison. Elle a dit non, la piscine pour les enfants dans les régions chaudes comme la Drôme, c'est hyper important, mais j'aurais du mal à convaincre les gens de sa nécessité. Alors que le toit, ça, je trouverais toujours quelqu'un pour me prêter de l'argent pour le finir. Un bulldozer donc, mais de ceux qui construisent, pas de ceux qui détruisent.
Donc vous grandissez avec autour de vous ces femmes qui sont quand même des figures assez épatantes, extraordinaires. Et puis en revanche, la figure de votre père, telle que vous le décrivez, est assez cruelle. Un grand metteur en scène. Et alors je vais y venir, vous faites une moue dubitative, mais c'est un héros de la résistance. Il s'est très peu occupé de vous. Il y a cette histoire, en fait, je parle de cruauté parce qu'il y a cette histoire du seul cadeau qu'il vous fait à vous et à votre frère. Et avant la fin de la journée, il reprend le cadeau qu'il a offert à votre frère, qui est une montre, en l'occurrence. Et ça, c'est cruel. C'est cruel.
Je ne sais pas s'il a voulu être cruel. Il était inconscient. C'était un gamin, en fait. C'était un gros, comme à peu près 90% des hommes. Hein. C'est un gros bébé, quoi. Mais disons qu'il est. C'était un très grand mec, oui, sur le plan. Et puis, en plus, très généreux. Je veux dire qu'il a, Il a sauvé ces juifs, il a été à l'origine de l'éclosion de du théâtre noir, quand même, Aimé Césaire, Katel Yacine. Il a été vraiment des déshérités à l'époque. Bon. Donc c'était quelqu'un de très très généreux, mais. Et ça, c'est pour ça que je ne lui en veux pas tant personnellement. Mais c'était le. Ah bon, il y a probablement eu des problèmes entre eux, j'en sais rien. Mais c'était permis, c'était possible à cause du patriarcat.
De pouvoir traiter sa femme et ses enfants comme
rien. Je ne suis pas la seule. Hein. Il y a énormément de gens qui ont été traités comme ça. Mais à partir du moment où on n'a pas d'égalité financière et sociale dans cette société, les femmes sont forcément très, très, très. Oui, dans la dépendance. Et ma mère, elle a refusé ça. Et lui, il n'était pas plus méchant qu'un autre. Et puis, personnellement, je n'ai pas envie de juger les gens, jamais. C'est moi, mon boulot, je ne fais pas des lois, moi. Je fais des films, je fais des œuvres qui sont des œuvres artistiques. Bah, voilà, j'essaie de comprendre comment ça a pu avoir lieu. C'était le règne du patriarcat. Voilà. Et dans le patriarcat, il n'y avait pas. En 1965, ce n'est pas l'âge des cavernes. Hein. Vous étiez une femme, vous n'avez pas le droit d'ouvrir un compte en banque. Non, mais vous vous rendez compte? Si on vous disait, ah non, il faut demander à votre père. Qu'est-ce que vous diriez là? Ou à votre mari? Non, mais attends. D'abord, j'ai pas envie de me marier, peut-être.
Il y a une autre figure qui est assez belle dans votre histoire, c'est celle de votre grande-tante, qui est la sœur du grand-père. Alors, attendez, oui, c'est la sœur du père de votre père. C'est la sœur de votre grand-père.
Elle est forte. Hein.
C'est la sœur de votre grand-père, votre grande-tante qui est religieuse, qui vous écrit régulièrement, qui est très intelligente. Qui est rentrée dans les ordres, vous dites, parce qu'elle était quelque part amoureuse de son frère. Et que son
oui,
frère
plutôt parce qu'elle a été agrégée. Enfin, elle n'était pas agrégée, je crois qu'elle était licenciée en maths.
Elle était
mathématicienne. Comment voulez-vous, en province, à Poitiers,
trouver
un mari si vous êtes mathématicienne? Mais pas. Attends, on parle là des années 1880 et des brouettes. Mais elle, c'était les maths qui l'intéressaient. Elle était supérieurement intelligente. Et encore, et de l'autre côté de la famille, on était. Ça, c'était même pas son côté à elle. On descendait des mathématiciens Bernoulli. Donc, les femmes qui s'intéressaient aux maths, mais elles étaient plus épousables. Donc, elle avait été pas épousable. En plus, elle était attachée à son frère. Donc, elle est devenue nonne.
Elle est devenue nonne, elle vous écrivait régulièrement. Votre mère ne l'aimait pas parce qu'elle était religieuse et que votre mère était
anti-clérical. Elle a eu tort, ma mère, là, de ne pas l'aimer.
Et voilà. Et vous décrivez cette phrase très belle. Que j'ai pas sous les yeux, malheureusement, je sais pas où je l'ai mise, mais où vous dites tous ces gens qu'on finit par découvrir un jour, parfois quand c'est trop tard.
Il faut jamais être trop sûr de ces rejets, il faut rien du tout, mais enfin, tous les gens ont leur raison, leurs raisons sont bons à connaître avant de les juger.
En tout cas, tout ça, toute cette enfance, ces quelques années passées à Beauvallon, cette mère extraordinaire, ces femmes qui vous ont accompagné, ça vous donne une liberté pour rentrer dans la vie qui est dingue. Et je me suis demandé, en vous lisant, je me suis demandé si cette liberté, que vous aviez 18, 20 ans dans les années 60, n'avait pas fait peur à des gens, si vous n'aviez pas un peu peur.
Je ne sais pas, alors là je suis mal placée pour le dire. Peur, non, mais... De toute façon, en plus, je suis tombée, moi, dans la fin de mon adolescence, dans 1968. Donc, on est tombé dans une grosse révolution, justement, de liberté. Alors, ma liberté, je ne faisais pas spécialement peur. En même temps, probablement que si, mais moi, je m'en fichais complètement de ça. Enfin, je veux dire, moi, j'avais une idée en tête, c'était une œuvre à construire. Donc là, j'étais un bulldozer. Et je connaissais des bulldozers, ça, c'est vrai. Je connaissais des gens que rien n'avait arrêté.
C'est vrai. Vous êtes resté un bulldozer toute votre vie. Vous avez
Non, mais quand je dis bulldozer, c'est-à-dire que quand je pense qu'une chose est juste et qu'il faut la faire, pas que pour moi, eh ben je la fais, quoi. J'essaye de me donner les moyens par la ruse aussi, comme Marguerite, par le charme, par la ruse, essayant d'être intelligent, essayant d'avoir de l'humour, et puis de donner des envies. J'arrive à faire mes projets. J'essaye.
Vous avez touché un petit peu à tout. C'est quand même, vous êtes cinéaste, vous êtes dramaturge, vous avez écrit des pièces, vous avez, ça c'est plus récent, mais vous avez créé un chœur. Comment vous vous mettez à une nouvelle activité artistique?
Ah oui, mais le chœur, moi, toute ma vie j'étais musicienne, j'ai commencé la musique à 2 ans et j'étais organiste aussi pendant mon adolescence. J'ai fait énormément de musique et d'ailleurs j'ai fait le conservatoire de la rue de Madrid qui était à l'époque le CNSM. Donc mais en histoire de la musique et en esthétique, hein, pas en instrument. Mais enfin, en instrument, j'étais dans une... Non, j'avais une formation musicale et j'ai jamais arrêté de faire de la musique, ni arrêté de diriger des chœurs, parce que dans tous mes spectacles, il y avait des chœurs.
Ni arrêté de faire de la danse, ni arrêté d'écrire, ni arrêté de...
Ah non, j'ai rien arrêté. Dessiner, peindre. Mais par contre, la danse, c'était... Oui, mais c'était surtout le trapèze, parce que le trapèze, c'est vraiment une discipline, probablement à cause du fait que j'ai vécu dans les branches d'arbres une grande partie de tous ces étés que je passais à Beauvallon. J'avais les mains très très costauds, j'avais les bras costauds. Donc quand j'ai touché la barre du trapèze, ça y est, j'étais chez moi, quoi. Et donc j'ai fait beaucoup beaucoup de trapèzes. J'avais un très beau numéro professionnel qu'on peut voir sur YouTube. Hein. Vous tapez Colline Cero Gala de l'Union, clouc, ou Colline Cero La Belle Verte, numéro de trapèze, parce que c'est même pas dans le film, c'est dans les bonus. Donc, mais c'était pour moi, c'était une seule et même chose, parce que quand vous êtes acteur, faut être vachement en forme. Hein. Pour jouer tous les soirs, tourner la journée, s'occuper des gosses, etc. Parce que j'ai aussi élevé des enfants. Et j'ai fait aussi des maisons. Donc, fallait la santé. Quoi. Et la santé, ben, faut faire beaucoup de sport pour avoir la santé.
Le trapèze, vous avez appris auprès de Annie Fratellini.
Oui.
Qui avait une école de cirque.
Oui, qui a ouvert son école le jour, quasiment le lendemain de l'ouverture. J'y étais. C'était quelqu'un de très, très bien, Annie. J'en parle dans le bouquin.
Bien sûr. Ouais.
Elle a fait vraiment... Elle était un peu une espèce de Marguerite dans son domaine.
Elle ouvrait à tout le monde l'école.
Et puis alors toujours, elle disait, bon, maintenant on va discipliner tout. Et puis c'était le bazar des gars. Parce que c'était libre, quoi, chez elle. Et après, il n'y a plus jamais eu ça. Hein.
Oui, vous dites, après son départ, bah, les pionniers, ça ne se remplace pas.
Non, c'est les pionniers, Marguerite non plus. Oui, puis les grandes entreprises, elles durent quoi, 20, 30 ans, quoi. Et puis après, c'est fini, c'est pas grave. On passe à autre chose, ça renaît ailleurs. Les graines sont semées. C'est lent, les graines.
Le trapèze, exactement, c'est comment vous en parlez ? Qu'est-ce
que c'est ? Le trapèze, c'est difficile, c'est une discipline dure qui fait mal, dans un premier temps. Hein. Mais c'est la sensation de devoir être forcément, pour y arriver, en accord avec la gravité, disons, avec le mouvement que vous contrôlez, quoi. Mais par contre, vous vous en servez. Et ça, je pense que, en dehors du fait que quand on réussit, c'est vraiment un shoot, quoi. Quand on réussit une figure, quand on se balance en grand, grand, très grand ballon, qu'on se laisse tomber. Mais.
30 minutes.
Mais en même temps, je pense qu'à l'arrivée, ce qui a été le plus fort pour moi dans le trapèze, c'est l'obligation de cette détente et d'être. Dans le mouvement cosmique, dans le mouvement de la gravité, quoi. Ça, c'est vraiment... Toutes les grandes disciplines physiques, hein, d'ailleurs, même les sports, hein. Sauf que là, en plus, il faut que ça soit beau, quoi.
Vous avez mis vos enfants en trapèze aussi.
Oui. Ah, j'ai mis tout le monde à tout. Et les enfants, ils ont été trapèze, musique...
Ça a été facile de conjuguer les enfants avec votre vie de créatrice ?
Ben non, ça a été, des fois quand je regarde en arrière, que je tournais La Belle Verte en même temps que je jouais le soir. Donc je jouais, je mettais en scène, j'avais les gosses. Enfin, je ne sais pas comment j'ai fait. Si, je sais comment j'ai fait. J'avais à ce moment-là quand même gagné des sous. Et j'étais entourée de gens formidables. C'est toujours pareil. Hein. C'est pas moi toute seule. C'est des équipes. On avait une équipe. Grosse organisation. Hein.
Vous avez gagné des sous avec Trois Hommes et un Couffin, notamment, j'imagine.
Ouais, mais oui, après,
avec tous mes films. Un petit peu tout le temps. Mais
j'ai pas cherché ça, mais bon, ça m'est tombé dessus. C'est très, j'étais très contente. Hein.
C'était
pas
agréable.
Ah oui. Ah ben, non, mais pas le succès. Oui, le succès, les sous. Et puis surtout la possibilité de continuer, quoi, facilement. C'est que ça qui est important. La gloire, on s'en tape. De toute façon, ça passe comme les feuilles en automne. Le fric, bon, bah, c'est juste une liberté, le fric. Et le succès, on s'en tape aussi, à moins que ça rende les gens heureux. Ça, c'est génial. Et ce qui est important dans le succès, c'est que ça vous permet de continuer, c'est tout. Mais la glorieuse, j'ai été trop élevée par des protestantes qui avaient zéro ego pour que l'ego prenne le dessus chez moi.
Ça, les parpaillots ?
Parpaillot, vous connaissez là?
Bah, maintenant, je connais, oui.
Ah, les Parpaillot, c'est protestant. Pourquoi ils sont appelés comme ça? Parce que quand ils se cachaient autrefois, pendant la répression, les dragonnades et tout, dans les guerres de religion, ils se cachaient dans les montagnes, ils avaient des petites lanternes et ils montaient dans les montagnes pour faire leur culte, dans des clairières ou comme ça, qui s'appelaient le désert. Et on voyait dans les montagnes des petites lumières, comme ça, qui et c'était comme des papillons. Et Parpaillot, c'est papillon, en fait.
Vous racontez aussi la mort de vos deux frères, et notamment la mort de votre frère en Grèce sur un chemin de randonnée. Il y a une chape de chagrin qui transpire un petit peu de ce chapitre dans hashtag
Pauline. Oui, mais tout le monde a perdu des gens.
Mais on en parle rarement avec mes invités, en fait, du fait que vieillir, c'est pas seulement se confronter peut-être à la mort, ou c'est pas seulement se confronter à soi-même, c'est aussi perdre des bouts d'enfance en
oui,
permanence.
On perdra tout le temps.
On perd en permanence.
Depuis le début, on perd, quoi. Mais on gagne aussi. Et ben voilà, et c'est le destin. C'est pas forcément cette mort-là qui est intéressante. Le fait qu'on la raconte, et qu'aussi ceux qui ne l'ont pas vécu sachent que ça va les atteindre aussi à un moment. Que ça soit un frère, une sœur, les parents, c'est plus naturel, mais il y a toujours des deuils. Et plus ça va, et plus on est dans. On perd des choses, on perd des gens, on perd des souvenirs, mais on gagne aussi en sagesse, peut-être. La vie ne peut pas être simplement un chemin vers quelque chose de triste. Non. Ou alors
on arrête.
Non, il y a des trucs bien qui arrivent, très 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 bien.
Et créer, ça fait partie d'une petite résistance, enfin d'une grande résistance, pas petite.
Ah non, alors là, créer, c'est...
Non.
Créer, c'est... Je veux dire, moi, je me lève le matin et il faut que...
C'est aussi naturel que respirer, quoi.
Ah oui, ouais. Je pense que c'est compulsif. Mais on a tous des trucs compulsifs comme ça. Si vous prenez celui qui est garagiste et passionné par son métier, il se lève le matin, il a envie de réparer des bagnoles, quoi. Et c'est bien. On a tous une fonction sur cette terre, on a tous un truc où on est doué. Ce qui est formidable, c'est quand on peut le faire. Et c'est ça que les systèmes éducatifs devraient chercher chez les gens. Là où ils sont heureux de se lever le matin et de le faire. Tous les boulots peuvent être intéressants. Enfin, il y en a aussi qui sont durs, hein, mais on est tous doués pour quelque chose. Pas plus. Et les créateurs ne sont pas au-dessus ou ailleurs. Simplement, ils ont ce truc-là, quoi. C'est comme une espèce de poudre qui se répand sur l'humanité de tous les dons qu'il y a. C'est une entropie. Vous prenez 20 mecs dans la rue, il y aura forcément un créateur, il y aura forcément
un organisateur,
un forcément qui sera tout le temps en opposition, qui sera une espèce de virus, mais en même temps, il fera avancer les trucs. Vous aurez toujours un petit peu un microcosme. Hein.
C'est un peu une sans transition, mais un petit peu quand même. Vous avez amené le hip-hop à l'Opéra Bastille dans Hip en volée hop.
Non, Hip en volée hop, ça c'est deux spectacles que j'ai montés à l'Académie Fratellini. Cirque hip-hop et hip en volée hop.
Pardon.
Mais c'est dans la première mise en scène que j'ai faite à l'Opéra Bastille. Ça s'appelait La Chauve-Souris. Et là, j'ai fait rentrer une troupe, mais alors de 20 danseurs hip-hop, quoi.
Mais vous étiez un peu, pas forcément pionnière là-dedans, mais en tout cas, de les faire rentrer à l'Opéra Bastille, c'était
Il y a longtemps, et c'était pas encore ce que c'est devenu, la musique hip-hop. La danse hip-hop, pour moi, c'est la grande danse du XXe siècle, hein. Et même de maintenant, c'est la réécriture de toute la chorégraphie, le langage chorégraphique. C'est vraiment génial, parce que ça part aussi, comme le jazz, d'une souffrance sociale, quoi. Et les artistes de cette souffrance sociale, eh ben, ils expriment par la beauté. Et par la protestation, elle se fait aussi, mais ailleurs. Eux, ils expriment par la beauté, par l'art. Et ils ont inventé un langage d'une très, très grande beauté, enfin, d'une poésie et d'une virtuosité incroyable aussi. Et ils sont... Moi, je voulais qu'à la Bastille, je voulais que les gens voient ça. Et ça faisait un peu des remous quand ils rentraient en scène, mais après, ils étaient...
Standing ovation.
Ouais, oui, oui. Parce qu'ils étaient très forts. Ils étaient très, très beaux. Et puis il y avait Laura Scozzi qui avait fait qui est une formidable chorégraphe qui avait fait la chorégraphie. C'était très beau aussi.
On n'en parle pas beaucoup dans cet entretien du plus grand succès de Colline Serreau, parmi d'autres, bien sûr. Trois hommes et un couffin, écrit et réalisé par elle, c'est quand même un énorme succès quand il est sorti en 85.
Ces 10 millions d'entrées, ça a fait l'objet d'une adaptation aux États-Unis et le film a aussi gagné 3 Césars. Dedans, elle prend un malin plaisir à y mettre 3 hommes dans une situation où ils n'ont vraiment pas leur marque. En tout cas, ils ne les avaient pas en 1985 pour la très grande majorité d'entre eux. C'est-à-dire la gestion d'un bébé, d'un tout petit bébé. Ils n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils font. Alors entre ça et entendre ce que Colin Serrault dit sur son père, qui s'est vraiment pas occupé d'eux, même le jour où leur mère est à l'hôpital après une tentative de suicide, et revoir Trois hommes et un couffin en 2019, ça permet de mesurer une fois de plus que, au moins au niveau des attentes sociétales, les choses ont un peu changé.
On va parler d'un film qui est le film dont apparemment les gens vous parlent tout le temps quand ils vous parlent de vos films. C'est pas Trois hommes et un couffin, c'est donc La Belle Verte.
Plutôt, oui.
Sorti en 1996. Maintenant, ouais. Film dans lequel vous avez mis beaucoup de vous. Où vous avez. Enfin, en tout cas, qui vous a traîné dans la tête longtemps.
Oui, ça a été difficile l'écriture, oui.
C'est un film utopique qui a été un four. Quand il est sorti,
un vrai four, ouais.
Critique publique.
Critique insultante, ouais. Et maintenant, c'est des millions de téléchargements, des trucs sur YouTube à tire-larigot, des séances belles vertes que les gens organisent partout avec des copains, etc. C'est des traductions dans je ne sais pas combien de langues. Enfin, c'est un peu un truc dément, quoi. Mais c'est bien, non? Les choses
ne meurent pas.
Nous, on fait, puis ça, jamais une œuvre meurt. Elle, c'est une graine. Après, elle sème quand il y a les conditions favorables. C'était en avance. Trois hommes et un couffin, c'était pile dans la vague. Et moi, je continue. Moi, je fais mes trucs. Puis je suis en avance, je ne suis pas en avance. C'était pas, je ne sais pas.
Ça a été quand même, j'imagine, un échec difficile à vivre.
Oui, parce que d'autant plus que j'étais je savais. J'avais une espèce de force en moi, intuition, qui savait que, décidément, on n'arrête pas de se croiser, hein.
Colin Serrault croise une amie.
J'avais une espèce d'intuition que c'était ça qu'il fallait faire. J'étais dans une espèce de certitude, pas arrogante, mais certitude que c'était ça qu'il fallait dire et faire. Et d'ailleurs, quand j'ai eu fini le film, je me suis dit, bon, si j'en fais pas d'autres, c'est pas grave. Là, j'ai vraiment fait le film où tout est dit. Et le tournage était très heureux. Les gens étaient très avec moi dans cet esprit-là. Bon, et ça a été un four. C'était difficile, c'était douloureux. Mais après, j'ai tout de suite passé à un autre projet. Je veux dire que je ne peux pas m'arrêter à un échec. Quoi. Il y a une espèce de pulsion là, à l'intérieur, une usine qui continue. Hein, moi, ça continue. Quoi.
Vous avez de la chance quand même de ce point de vue-là, non?
De quoi?
Ça ne s'arrête pas.
Oui.
Que l'usine ne connaisse pas de panne.
Non, il n'y a pas de panne d'usine pour l'instant. Il y aura une panne définitive à un moment.
Je me suis demandé. Oui. L'usine va fermer à un moment.
Oui, c'est clair.
Mais bon, il restera les pièces.
Oui, il restera les pièces. Il restera la production de l'usine.
Et là, dans La Belle Verte, je me suis demandé en re-regardant le film, là, donc pour remettre, pour que les spectateurs, les auditeurs aient envie de le regarder, le début du film. Donc, on est dans une autre civilisation, une civilisation qui a des années d'avance sur la Terre. Et il y a une espèce de grande réunion où on décide qui va aller sur telle planète, qui va aller sur telle planète, qui va aller sur telle planète cette année-là. Et personne ne veut aller sur Terre, où vraiment, c'est des arriérés finis. Ils ont vraiment 3000 ans, 4000 ans de retard. Quoi. Je me suis demandé, en voyant cette grande réunion, s'il n'y avait pas un rapport, alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu facile, avec votre enfance. Je me suis dit, cette espèce de tout le monde est dans la nature,
oui, peut-être que parle, c'était...
et ça me faisait un petit peu penser à l'organisation dont vous parliez dans Mon Vallon.
Alors, si c'était peut-être très inconscient, en tout cas, je ne l'ai pas fait consciemment.
Mais comme idéal de vie, quelque
mais
part.
C'est pas seulement un idéal de vie, c'est aussi l'idée que... C'est ce que je dis aussi dans le bouquin sur les blessures narcissiques. C'est-à-dire que arrêter de penser qu'on est le nec plus ultra de l'évolution. Pouvoir avoir l'humilité, terminer avec l'arrogance de se dire on est les mieux. Non, non, il y a peut-être mieux. Il y a déjà mieux là, sur Terre, dans l'organisation des animaux, dans l'organisation des plantes, qui sont là depuis bien, bien plus longtemps que nous. Donc nous, toutes les philosophies nous présentent comme l'arrivée enfin du machin que Dieu a choisi, quoi. Non mais attendez, Dieu a choisi quoi, cette race-là? qui est en train de se démolir, de faire la guerre à la Terre, de faire la guerre entre eux, à s'autodétruire en permanence. Je pense pas. Hein. Je pense qu'on est juste au stade, juste après l'accouchement, des nourrissons très très mal fagotés qui pataugent et qui se détruisent, quoi. Et puis il va falloir les éduquer, ces nourrissons. Et la Terre va s'y employer. Hein. Mais le règne animal et le règne végétal, sans parler du règne minéral, sont formés des mêmes atomes que nous et sont là depuis bien plus longtemps, ont évolué et sont beaucoup plus évolués que nous. Beaucoup
plus. Ils communiquent entre eux.
Ils communiquent, vous avez les mises au
bouquin. Ils protègent. La forêt, par exemple, ouais, les arbres se protègent les uns les autres.
Ils font aussi un peu la guerre, mais ils s'arrangent, quoi. Il y a toute une... vous l'avez lu, le bouquin, apparemment...
J'ai lu des choses de biomiméticien, mais
comment les champignons se succèdent pour broyer les arbres morts, etc. Enfin, c'est une organisation d'une complexité, d'une richesse. Oui, ils distribuent les sucres et machin, les petites gouttes qui tombent là, etc. Enfin, c'est d'une complexité que nous, à côté, on est des béotiens, quoi.
Et parmi les choses qui sont dénoncées depuis
La vie secrète des arbres, grand bouquin. Et puis il y en a plein d'autres qui arrivent, ouais. La vie des chimpanzés aussi. Il y a une collection qui est parue chez Actes Sud. Incroyable.
La vie incroyable. Des chimpanzés, vous conseillez ?
Ah oui, ça remet tout en question, quoi. Ils sont très avancés, les chimpanzés. Enfin bon, on pourrait en parler des heures, ça aussi.
Les chimpanzés, moi je suis pour. Hein.
Ah bah oui,
me parler des heures, très intéressant. J'écoute. En 2010, vous sortez Solution locale pour un désordre global. on attend
la récré arrive. Ils vont à la piscine où ils en sortent.
En 2010, vous sortez ce documentaire « Solution locale pour un désordre global », qui est un documentaire qui, au lieu de faire des constats, qui sont les mêmes constats qu'on fait aujourd'hui en 10 fois pire encore qu'il y a 10 ans, reste des...
Mais l'analyse est la même.
Oui, l'analyse est la même. Vous avez quand même l'impression ces dernières années, ces deux dernières années, on va dire que ça y est, ça prend, ça y est, on écoute.
Non.
Non ?
Oui, les médias en parlent, on est quand même au bord d'un espèce d'effondrement de un peu général, hein, financier aussi, etc., social et écologique bien sûr. J'ai pas l'impression, parce que nous on est dans un microcosme ici parisien, français, etc., mais
à l'échelle du monde, ouais, de la planète.
À l'échelle du monde, entre l'Inde et la Chine, il y a en gros 3 milliards d'humains qui ont tout à fait l'intention de se développer comme nous. Hein. Ils n'ont pas du tout l'intention de décroître ou de freiner. Ils veulent tous des bagnoles. Mais ça, il va y avoir un mur. Donc, et on ne peut pas leur reprocher. Pourquoi leur reprocherait-on de vivre comme nous on vit depuis 50 ans, comme des pachas, en gaspillant tout? Mais bon, en Inde, il n'y a plus d'eau. Il y a des énormes problèmes qui vont se poser. Hein, et puis des flux migratoires extrêmement violents. Donc, non, je ne suis pas du tout optimiste parce que les mesures ne sont pas prises. Et ce n'est pas une question de mesures. C'est une société qu'il faut changer.
Changement de paradigme.
Et, complètement. Et il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans ce changement-là. Et ce n'est pas seulement une question de masse critique. Parce que j'ai l'impression que moi, par exemple, que 100% des Français veulent manger bio. Hein.
Mais s'ils peuvent se le payer.
Mais la nourriture bio, c'est la plus moins chère à payer. C'est la nourriture chimique.
La moins subventionnée.
Comme elle n'est pas subventionnée, l'autre, elle est inondée de pognon. Donc c'est moins cher, évidemment. Donc tout est de traviole. Tout marche sur la tête. Je ne pense pas que le changement arrivera gentiment.
Vous êtes un petit peu...
Ça ne va pas arriver gentiment, malheureusement.
Non, ça ne va pas arriver gentiment.
Non. Et je ne pense pas que ce soit mûr non plus politiquement pour préparer une alternative politique viable et construite.
Donc, je vais vous poser mes deux dernières questions alors que cette moto passe juste derrière nous. La première question, c'est est-ce que c'était mieux avant ? Et je pense que vous avez une réponse.
Non, il ne faut jamais penser comme ça. C'est pas mieux avant, ça avance doucement, mal, bien. Avant, il n'y avait pas l'informatique. Moi, je suis une geek, j'adore. Je veux dire, c'est dommage. C'est formidable maintenant, les Internet, la manière dont on peut communiquer et connaître, surtout. Quand on peut, l'accès à la connaissance est extraordinaire. Donc, il y a plein de choses formidables. Il y a plein d'inventions qui ont été formidables. Non, moi, je suis pas. Il y a des choses qui étaient mieux avant.
Ça s'appelle donc, d'ailleurs, hashtag Colin Serreau, votre livre. Enfin, oui, on est oui, très oui. Directement...
Voilà, et puis il y a des choses qui sont mieux maintenant. Prenons, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, prenons ce qu'il y a de bien maintenant, et puis gardons ce qui était bien avant. C'est vrai que les générations, les vôtres, sont un petit peu formées à être coupées de leurs racines. Et c'est important de savoir d'où on vient, qu'est-ce qui a fait quoi, de connaître l'histoire en profondeur et de connaître et d'avoir cette gratitude envers ce qui a été bien fait. On a quand même une démocratie qui fonctionne de traviole, mais bon, on a des choses qui sont pour lesquelles les gens se sont battus. Quand il faut continuer ce combat, mais
qu'est-ce qui vous donne l'impression qu'on est coupé de nos racines ?
Ils y sont bien enracinés. Il y a aucune politisation dans cette génération. Il n'y a pas de culture politique théorique vraiment importante, vraiment.
Théorique.
Ben non, ben c'est pour ça qu'il n'y a pas de proposition théorique valable. Il y a des actions. Avec un petit godet, vous n'allez pas éteindre l'incendie. Hein.
Avec un petit colibri, vous voulez dire ?
Ouais, voilà. Ben non, je veux dire, c'est quand même une philosophie lamentable. Chacun dans son petit coin, en particulier des bourgeois, bien sûr, parce qu'il n'y a que les bourgeois qui peuvent se payer du bio, mais ça ne va pas, ça. La vraie démocratie, c'est quand le plus pauvre d'entre nous mange correctement. C'est ça, la démocratie. Et ça, c'est ce que dit Vandana Shiva. Donc là, comme tout le monde a été complètement dépolitisé de l'analyse de la société, on est sur des trucs tout à fait événementiels, avec un quart d'heure de mémoire, on réagit tout à fait affectivement à tel truc. Mais il va falloir... Se prendre en main, organiser les choses autrement, les prévoir et avoir un État qui soit autre, mais il y aura quand même une organisation importante, etc. Garder ce qu'il y a de bon dans cette organisation, etc. C'est tout un boulot quand même hein, de construire une nouvelle société. Ça ne se fait pas juste avec 3 manifs. Les manifs, c'est bien, hein, mais...
Et pour ça, relire.
Mais je pense, oui. Je pense qu'il faut relire tous les grands auteurs depuis, disons, le 19e siècle. Les socialistes, les marxistes... et même les gens de droite éventuellement, mais il faut absolument. Mais oui, parce que même ceux qu'on combat, mais il faut absolument se cultiver sur le plan politique, et c'est pas du tout en vogue, hein. Pas du tout. Les gens n'ont pas de culture politique. Alors on réagit avec des mesurettes au coup par coup, mais il n'y a pas de projet, quoi. De toute façon, il n'y a pas de projet à partir du moment où eux, ils empochent les profits et nous. On paye les déficits, c'est ça le projet en fait. C'est le projet, on socialise les pertes et on privatise les profits. Hein. C'est le projet, ça. Bah oui, d'accord, mais bon, il y a un moment, il faut avoir un autre projet quand même. En tout cas, il y a des gens qui vont se charger de le demander, cet autre projet, et pas forcément gentiment.
Pas gentiment. J'ai une dernière question pour vous, Colline Serrault, avant de vous laisser partir au théâtre de l'Odéon. Est-ce que vous avez peur de la mort ?
Alors là, pas du tout.
Zéro ?
Bah, j'ai pas envie d'avoir des heures et des heures de souffrance, etc. Mais je pense que la mort, comme pour Bach, enfin, ça peut être un super soulagement aussi. Hein. Enfin, de se reposer, enfin, d'arrêter l'usine. puis
c'est vrai que ça a l'air de carburer pas mal.
et de retrouver une autre place ailleurs dans ce cosmos, quoi, voilà. Autrement.
Vous n'avez jamais eu peur, pas à 30 ans, pas à 20 ans, pas à 50 ans.
J'ai peur de la mort des autres, parce qu'elle me fait du chagrin. J'ai peur de rester après les autres. Mais moi-même, ça sera plutôt un soulagement, je pense. Un repos, quoi. Ou pas un repos, peut-être que je deviendrai du vent, moi. Je ne serai peut-être pas en repos. Hein. Si je deviens une feuille de cet arbre, la purée, ça bouge là-haut. Hein.
Ça bouge et puis il y en a du bruit.
Oui. Oui, ou une roue, si je deviens une roue de moto, là, ça j'aimerais pas, mais bon. Non, mais comment peut-on avoir peur de ce qui va arriver ? Je veux dire, ça va arriver,
on peut pas.
C'est comme de vieillir. Est-ce que tu as peur de vieillir ? Attends, combat ce que tu peux combattre. Livre les batailles que tu peux gagner. Tu ne la gagneras pas, cette bataille-là. La bataille du vieillissement et de la mort, on ne la gagne pas. Donc, prenons-la comme un truc vachement positif et battons-nous pour les trucs qu'on peut changer, par contre. Par contre, oui, ça, oui. Parce que ça, sinon, ça nous... Enfin, je veux dire, ne nous dispensons pas de faire ce qu'on a à faire, quoi.
Merci beaucoup, Colline Serrault.
Merci.
Un grand merci à Colline Serrault d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions un petit matin d'automne à Paris. Vieille Branche est une émission de nouvelles écoutes présentée par Marie Misset. Réalisation Aurore Meilleur-Mailleux. Mixage Laurie Galgani. Coordination et prise de son Marine Rowe. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts, à nous suivre et à nous écrire sur Twitter @_vieillebranche
ou alors sur Instagram à Vieille Branche Podcast.
À bientôt dans Vieille Branche.